Je voudrais vous poser une dernière question, Tiffaine Kervelec. Avez-vous entendu parler du pass Navigo? Et pouvez-vous nous dire, Madame Kervelec, combien coûte ce pass Navigo mensuel?
Pardon?
Vous avez beaucoup insisté ce soir sur la question du pouvoir d'achat des Français.
J'avais bien compris votre question, Monsieur Boulanger. Je suis juste un peu étonnée et, pour tout dire, déçue qu'après une heure et demie d'émission durant laquelle j'ai essayé de parler de santé, d'éducation, au passage, j'aurais bien aimé avoir au moins ne serait-ce qu'une question sur la culture, pour laquelle mon gouvernement mène aussi une politique très volontariste.
Bon, vous ne connaissez pas le montant du pass Navigo.
Je vous dis que je n'ai pas envie de vous répondre parce que je trouve que cette question n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous ne sommes pas à l'école, ni dans un jeu télévisé. Vous n'êtes pas mon professeur, monsieur Boulanger, je ne suis pas votre élève, et je pense que les Français qui nous écoutent méritent mieux qu'un quiz.
Eh bien, je vais donc vous apprendre le montant du pass Navigo.
Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, monsieur Boulanger, depuis le début de l'émission d'ailleurs. Alors je vais être plus claire, je trouve que votre question est nulle, inintéressante et infantilisante. Et pour tout dire, indigne du service public.
Mais ça intéresse beaucoup les habitants de la région parisienne.
75 euros et 20 centimes.
Oui, c'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Passionnante, votre question.
Alors que les citoyens n'ont sans doute jamais été autant en demande de participation démocratique, notre époque voit ressusciter, sous de nouveaux atours, une figure politique que l'on croyait évanouie, celle du prince, omniscient et omnipotent, comme Tiffaine Kervelec, l'héroïne du feuilleton de France Culture 57 rue de Varennes, qu'on vient d'entendre. Ce paradoxe sert de point de départ au dernier essai de Vincent Martini, Le Retour du Prince, publié chez Flammarion. La belle affaire, diront certains qui se souviennent que l'incarnation est au fondement de la politique, et quel que soit le régime, mais il y aurait toutefois quelque chose de nouveau, quelque chose de pourri au royaume des démocraties. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'école polytechnique. Vous êtes chercheur aussi associé au CEVIPOF. Vos recherches portent notamment sur les manifestations contemporaines du nationalisme français, les débats relatifs à l'identité nationale et à l'usage politique de la culture. Dire la France, culture et identité nationale, c'était le titre de votre précédent ouvrage aux presses de Sciences Po. Il était sorti en 2016. Vous avez aussi, pendant plusieurs années, été producteur sur France Culture, producteur de questions politiques avec Thomas Vider, puis Ariane Chemin. Alors, pour vous interroger à mes côtés, Emmanuel Andréani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Society, notre partenaire. Et vous aviez, non pas dans le dernier numéro, celui qui vient tout juste de sortir sur Perdre la Terre, qui vient de sortir, mais celui de la semaine dernière, interviewé également Vincent Martini. Donc, vous serez donc à mes côtés pour lui poser les questions que vous n'avez pas pu lui poser, en tout cas pas pu mettre dans votre papier. Mais je voudrais commencer par une question qui est assez fondamentale, Vincent Martini. Est-ce qu'on peut encore aimer la politique?
Ah bah oui, on peut encore aimer la politique. Si on aime la délibération, si on a le goût pour un changement de société, si on pense que le collectif vaut mieux parfois que l'individu malgré tout, eh bien forcément on aime la politique. Je me souviens d'un livre de Lionel Jospin qui avait été écrit en 2010, un livre d'entretien, où il disait à la fin de ce livre, malgré tout ce qui lui était arrivé après le 21 avril, il disait « tout ça, ça vaut le coup ». Eh bien je crois que la politique, évidemment, plus que jamais, ça vaut le coup.
Et c'est le point de départ de votre livre, vous racontez comment la politique vous y accrochez depuis votre plus jeune âge. Et donc les évolutions récentes, ce que vous constatez, notamment finalement ce paradoxe qui voit un peuple descendre dans la rue pour demander un réforme d'initiative citoyenne, continuer à s'attacher à des figures du chef, rechercher la figure du chef.
Oui, il y a une recherche de la figure du chef. C'est pas parce qu'il y a des mouvements sociaux, par exemple, que on se débarrasse de la figure du chef. Moi, ce que j'ai voulu essayer de raconter dans ce livre, c'est comment, justement, on est un peu malade de cette obsession du chef. Pas seulement en France. C'est pas un livre exclusivement sur la France. C'est un livre qui se penche sur les grandes démocraties contemporaines, du Brésil à l'Inde, en passant évidemment par la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Et donc, j'ai essayé de comprendre un peu quelles étaient les modalités nouvelles de cette obsession du chef. Comme vous l'avez dit, on a toujours eu des figures politiques qui permettaient d'incarner des des épopées, des idéaux dans l'histoire. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans cette contemporanéité de notre fascination pour les chefs.
Si je vous ai posé cette question, peut-on encore aimer la politique ? C'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, elle est très démonétisée. Elle est même, c'est presque une insulte, hein, la politique aujourd'hui. On aurait dépassé le fameux clivage gauche-droite au profit du clivage progressiste-libéraux contre nationaux populistes, pour le dire rapidement. Vous proposez donc, vous, de dire que le clivage, ce clivage-là, non plus, il est plus très pertinent. Ça, il faut le dépasser aussi. Il y a quelque chose qui est au-dessus, et que, par exemple, cette figure du chef, qu'on retrouve aussi bien dans les démocraties libérales que dans les démocraties illibérales, Macron ou Orban, ce seraient les deux faces de la même médaille. Vous n'allez pas un peu fort, Vincent Martini ?
Oui, enfin, je dis pas que c'est la même chose. Encore une fois, je pense que, comme beaucoup de gens, je préfère avoir un président qui soit, on va dire, plutôt M. Macron que M. Trump. Donc, je suis pas en train de dire que les populistes autoritaires et les démocrates libéraux, c'est la même chose. Les populistes autoritaires manifestent une dégradation accrue de la culture politique, notamment par une subversion de l'État, par des partis ou par des individus, par une détérioration du climat du débat public, mais aussi parfois une privation de certaines libertés, on l'a vu en Hongrie. Donc je dis pas que c'est la même chose. En revanche, il me semble que dans leur façon d'exercer le pouvoir, dans leur façon d'imprimer leur marque dans leur pays, dans leur façon de revendiquer le statut d'homme fort, souvent des hommes plus que des femmes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, eh bien, il me semble qu'ils ont plus de points communs que ce qu'on veut bien accepter d'habitude, ou le dire d'habitude.
Une question d'Emmanuel Andréani.
Oui, vous dites que ces hommes forts, ces hommes forts surjouent d'une certaine façon. Ces hommes forts sont de plus en plus présents sur la scène politique, mais ils sont aussi, de moins en moins. Dans votre livre, vous expliquez qu'ils ont de moins en moins de pouvoir parce que la scène politique mondiale est de plus en plus complexe, qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Finalement, Emmanuel Macron n'est qu'un acteur sur 28 à l'Union européenne, bientôt 27. Pareil au G20, etc. Et que il y a un espèce de paradoxe finalement entre le fait de surjouer le pouvoir et d'incarner cette espèce de pouvoir très martial, très avec une tentation comme ça un peu autoritaire, ou en tout cas peut-être oui surjouer ça, et en même temps de réalité, de vraiment ce qu'ils sont capables de faire, et de mettre en œuvre très concrètement dans la société, de comment ils peuvent changer la vie.
Oui, Vincent Martini. Comme vous l'avez dit, il me semble que moins on a de pouvoir, plus on joue au pouvoir. Comme dans une pièce dans laquelle les acteurs n'auraient aucun impact sur la réalité, ou de moins en moins d'impact sur la réalité, il ne faut pas exagérer, je crois aussi au pouvoir de la politique. Il me semble que ce pouvoir qui a filé notamment vers la sphère économique, vers aussi d'autres lieux, moi je m'intéresse des chefs au plan national, les présidents de la République, les chefs de gouvernement, eh bien ils doivent faire face à de nouveaux concurrents dans l'exercice du pouvoir, au niveau supranational, mais aussi, et c'est heureux d'ailleurs, au niveau local, et je le disais, principalement dans la sphère économique, où on voit un transfert du pouvoir vers ces sphères-là. Alors, encore une fois, il me semble que c'est ce paradoxe qui est celui de la contemporanéité de notre époque politique, c'est-à-dire d'un côté, moins on a de pouvoir, plus on joue le pouvoir, et deuxièmement, plus les citoyens veulent participer au pouvoir, et au contraire, plus nous sommes englués dans l'incarnation des chefs.
En quoi cela vous paraît-il inquiétant ou dangereux ?
Bah, c'est inquiétant parce que c'est un peu la fin de la politique. Vous savez, la politique au 19e et au 20e siècle, elle s'est construite sur une double tentation, un double mythe. Le premier mouvement, c'est un mouvement du collectif. C'est l'idée que il fallait se débarrasser des princes, il fallait se débarrasser des monarques, et qu'au contraire, les remplacer par des assemblées, des groupes d'individus au nom du peuple qui pourraient prendre les meilleures décisions pour lui. Et le deuxième mouvement, qui est celui de la politique contemporaine, c'est l'idée que la politique sert à transformer le réel. On n'est pas dans une confusion entre les intérêts du prince et ceux du pays. On est dans l'idée que la politique est là pour accomplir des formes d'utopie sur Terre et permettre du coup à des citoyens de vivre mieux. Et il me semble que ce que marque cette surincarnation contemporaine, c'est un peu une double rupture avec ce mouvement, c'est-à-dire à la fois les individus dans leur solitude remplacent les mouvements collectifs. On voit bien que les chefs sont entourés de parlements affaissés ou fantômes, de gouvernements où des personnalités de second rang figurent et donc manifestent très peu de pouvoir vis-à-vis de l'incarnation principale qui est celle du chef. On voit que les contre-pouvoirs traditionnels sont affaissés, je pense notamment aux médias qui sont parfois même critiqués par les princes eux-mêmes. Et puis dans un deuxième temps, la question de la transformation du réel passe un peu au second plan au profit d'une mise en scène justement de la réalité et non pas de sa transformation.
Cette façon de surjouer le pouvoir, ça arrive même dans des pays dits parlementaires, comme le Canada par exemple, avec pareil cet ethos, la virilité qui passe par le sport, parfois par un match de boxe.
On s'échange de solides coups de poing quand même. Je suis impressionné là, par la résistance des deux.
On voit que la portée de Justin Trudeau est nettement plus longue. Hein, là, comme 3 pouces. Et là, il matraque son adversaire de
là, un autre ça, compte. Points, ça. Un autre compte. Et là, vous avez vu une combinaison de 8 ou 10 coups consécutifs.
Mais et ce que je note, c'est lorsqu'il reçoit un coup de poing, Justin Trudeau, maintenant, il rétorque. Puis là, absolument. Il rétorque avec plusieurs coups de poing. Donc mais, là, il y a de l'orgueil.
Il a pris confiance.
Il y a de l'orgueil aussi.
Encore des coups à la tête.
Oui. Wow! Est-ce qu'on va arrêter le combat? Un autre compte?
Oui, mais là, ça fait 3 comptes.
Non, mais ça, c'est pas le même, c'est le même, ça.
Non,
c'est le troisième compte dans le combat. On voit du saignement au nez.
Il est blessé au nez, probablement.
Alors, on arrête le combat. C'est Justin Trudeau qui
l'emporte. Justin Trudeau qui est déclaré vainqueur.
Le match de boxe entre Justin Trudeau, actuel Premier ministre du Canada, et Patrick Brazeau à l'époque. C'était ce match qui avait lancé un petit peu la carrière de Justin Trudeau, puisqu'il était connu pour être le fils d'un ancien Premier ministre, mais pas encore avec une image qui lui permettait de briguer les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Et vous revenez sur cet épisode, Vincent Martini.
Ça, c'est une histoire assez extraordinaire dont je parle dans ce livre. C'est la manière dont Justin Trudeau, qu'on surnommait jusqu'à présent le Paris Hilton de la politique canadienne, en raison à la fois de son physique agréable et de son poids politique relatif dans la vie politique canadienne, à part, comme vous l'avez rappelé, être le fils de Pierre Elliott Trudeau, un mythique ancien Premier ministre du Canada. Et donc, il était député relativement obscur dans une province du Québec. Et donc, il décide de provoquer en duel un député conservateur, ancien Marines canadien, qui s'appelle Patrick Brazeau. Et il va mettre en scène ce duel de boxe au profit d'une association caritative, dans mon souvenir, de lutte contre le cancer. Et donc, à la surprise générale, Patrick Brazeau, qui était a priori beaucoup plus amené à triompher, eh bien, se voit mis KO en 6 minutes par Justin Trudeau. Et suite à ça, il y a une espèce de mania qui se fait autour de Justin Trudeau, qui fait qu'un an plus tard, il va prendre la tête du Parti libéral. 2 ou 3 ans plus tard, il sera à Premier ministre. Mais c'est intéressant, ce que j'ai vu récemment, un documentaire qui s'appelle God Save Justin Trudeau. Je recommande aux auditeurs de France Culture. Très amusant, parce que c'est une véritable mise en scène à nouveau par Justin Trudeau de ce combat de boxe qu'il marque comme le début de sa vraie carrière politique et de son ascension. Et ce qui est intéressant, derrière le côté un peu anecdotique de ce combat de boxe entre le Premier ministre canadien et Patrick Brazeau, c'est l'idée que la politique se résume à un ensemble de coups. C'est-à-dire que derrière le style de boxe de Justin Trudeau, il est censé voir un style politique assez direct, assez droit, assez franc, qui fait que Trudeau va gagner à la loyale. Et il va mettre en scène cette idée-là. Mais d'une certaine manière, tout ça se fait au détriment des idées de Justin Trudeau. On ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête avant qu'il devienne chef du Parti libéral. Et d'une certaine manière, ça passe totalement au second plan. Ce qui compte, c'est ce que M. Trudeau incarne. Et donc ce match de boxe va montrer sa capacité justement à répondre aux coups et à en donner à ce titre. Là, lui donner une crédibilité de chef d'État, et c'est ça qui m'a intéressé.
Incarner, c'est pas nouveau en politique, Vincent Martini, l'incarnation par le corps et par l'esprit. Vous citez évidemment ce livre mythique d'Hans Kantorowicz sur les deux corps du roi. Qu'est-ce qui change, selon vous, dans votre analyse? Pourquoi être allé chercher Machiavel, d'ailleurs, pour essayer d'analyser cette nouveauté que vous désignez dans cette évolution des démocraties?
Alors, deux questions. D'abord, chez Machiavel, il y a l'idée que le prince est un être solitaire. Un être solitaire, dans le livre donc éponyme, il raconte que le prince est un acteur politique solitaire dont le but essentiel est de parvenir au pouvoir puis de s'y maintenir. La question de tenir ses promesses, la question des engagements passe un peu au second plan. Ce qui ne veut pas dire que Machiavel, comme on l'a souvent pensé, était un théoricien du pouvoir pour le pouvoir, au sens où il revendiquait des formes d'action. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui m'a intéressé en cette figure, justement, contemporaine de l'incarnation, c'est la solitude dont parle Machiavel dans Le Prince. Cette idée que, comme je le disais tout à l'heure, ces nouveaux princes, ces leaders de démocratie contemporaine, sont essentiellement seuls. Ils gouvernent seuls. On le voit en France, évidemment, on le voit aux États-Unis, par le turnover qui existe autour du président Trump, de ses conseillers qui restent et qui s'en vont très vite et qui empêchent, je crois, la mise en place de politiques sur le long terme. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'il y a une deuxième évolution, me semble-t-il, dans cette surincarnation, c'est le profil de ces nouveaux leaders et notamment la manière dont ils accèdent au pouvoir. Alors que auparavant, il était nécessaire d'effectuer des carrières longues pour pouvoir parvenir au pouvoir, aujourd'hui, les nouveaux princes ont grimpé des escaliers du pouvoir 4 à 4, d'une certaine manière. Ils sortent un peu de nulle part, ils court-circuitent le jeu politique traditionnel. Ce sont des gens qui étaient en général soit des conseillers politiques comme Macron, soit des figures mineures d'un parti comme Obama, qui est un peu la matrice de ce que je raconte, sénateur de l'Illinois, et qui en quelques années va devenir président des États-Unis sans passer par les différentes étapes qui habituellement faisaient, je crois, la carrière politique. On le voit avec Bolsonaro. On le voit avec le nouveau président ukrainien, ancien humoriste qui vient d'être élu il y a quelques semaines. On l'a vu avec Di Maio ou Salvini en Italie, qui était il y a quelques années webmestre, enfin, ou des personnalités relativement exclues du monde politique. Et puis le troisième élément qui, me semble-t-il, marque cette nouvelle forme d'incarnation, c'est ce que Milan Kundera appelle la dictature du cœur. Il dit, voilà, au royaume du kitsch s'exerce la dictature du cœur. Qu'est-ce que c'est que la dictature du cœur? C'est cette façon d'offrir des sentiments privés pour parler de politique. Hein, c'est Emmanuel Macron qui dit à ses soutiens, je vous aime farouchement. C'est Salvini qui embrasse ses soutiens. C'est Trump qui finit toutes ses, tous ses speeches par I love you, comme le faisait déjà Barack Obama. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je voudrais un peu revenir sur cette idée qui vient vraiment de Kundera, qui vient de L'insoutenable légèreté de l'être, qui est un livre qui m'a beaucoup finalement inspiré, même si ça parle pas beaucoup de politique. Notamment dans cette idée que il y aurait en fait une façon d'abolir la frontière entre le public et le privé, qui serait une manière de ce que Kundera appelle vivre dans la vérité. Il y a un de ces héros qui s'appelle Franz et qui dit voilà, pour vivre dans la vérité, il faut surtout abolir le privé et le public et vivre dans une pyramide de verre, hein, sur tout le monde peut vous voir. Hein. Et il y a un autre personnage que je trouve plus intéressant, et on comprend bien que Milan Kundera choisit ce personnage, qui est le personnage de Sabina, qui dit au contraire, non, on vit dans la vérité quand on vit sans public. À partir du moment où on est confronté à un public, on n'est plus dans la vérité. Et il me semble que là, les nouveaux princes qui mettent en avant cette dictature du cœur, ces sentiments qui sont censés émaner d'eux-mêmes avec sincérité, ne vivent pas dans la vérité, mais au contraire, proposent une vérité factice.
Ce n'est pas que de leur fait, évidemment, Vincent Martini, puisqu'ils vivent dans une époque où aussi la transparence est la règle, notamment avec l'évolution des réseaux sociaux. Emmanuel Andréani.
Oui, ce que vous dites sur les trajectoires météorites, on va dire fulgurantes de ces hommes politiques qui sont communes à tous ces hommes politiques, que ce soit Obama, Trudeau, Macron, le nouveau Premier ministre ukrainien ou des personnalités comme ça. Et ce que vous dites à la fois sur la mise en scène des émotions privées laisse entendre en filigrane qu'il y a quand même une grosse responsabilité des médias dans ce phénomène, ou en tout cas c'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a un storytelling à la fois d'une carrière avec un héros qui réussit très vite à arriver au pouvoir, et en plus une mise en scène des émotions privées auxquelles d'une certaine façon les médias participent.
Vincent Martini.
Alors oui, il y a une responsabilité lourde, me semble-t-il, des médias. Ce ne sont pas les seuls, je ne voudrais pas les charger essentiellement, mais dans un monde qui est de plus en plus complexe, dans un monde de plus en plus difficile à comprendre, dans un monde où même l'intelligibilité des affaires publiques nous paraît hors de portée, à nous autres, simples citoyens, chacun a une petite part éventuellement d'expertise, mais aucun d'entre nous n'est capable d'appréhender la totalité de ce monde complexe. Et bien dans ce monde-là, les médias, me semble-t-il, ont renoncé à expliquer la complexité de ce monde, la plupart d'entre eux, alors je dirais évidemment par amitié et amour pour France Culture, que France Culture est un des rares médias à essayer de le comprendre un peu plus que d'autres, mais enfin en tout cas, de manière générale, les médias ont préféré s'intéresser aux figures des gouvernants, à leurs faits et gestes, aux manifestations privées de ces dirigeants, plutôt que d'essayer de comprendre ce monde. Ils l'ont fait à mon avis pour deux raisons. La première est parfois une difficulté ou une paresse ou une sorte de conformisme des journalistes, parce que c'est plus difficile d'expliquer les politiques publiques, hein, et c'est moins vendeur d'une certaine manière que de parler des faits et gestes d'Emmanuel Macron, par exemple. Mais aussi parce que je crois qu'il y avait une conscience réelle de la part de ces journalistes que les citoyens n'étaient pas soit intéressés, soit même capables de comprendre la complexité de ce monde. Et donc, on est rentré dans un cercle vicieux dans lequel, finalement, on ne fait en politique que commander le buzz, commenter la petite phrase, commenter encore une fois ce qu'a fait Emmanuel Macron, ce qu'a dit Édouard Philippe, au lieu de s'intéresser profondément à des enjeux qui sont beaucoup plus embrouillés et dans lesquels ces acteurs ne jouent qu'un rôle marginal. Ils ont un rôle de décision, mais ce n'est qu'un rôle marginal par rapport à l'ensemble des décideurs qui pourraient avoir un impact sur les politiques publiques.
Ce qui vous fait dire de ces leaders, de ces chefs, que ce sont des rockstars qui sont accompagnés évidemment par leurs groupies, leurs fans. C'est de l'ordre de l'émotion, ce qui lie les leaders politiques aujourd'hui aux gens qui les soutiennent. Et ça met l'accent, comme l'a dit Emmanuel Andréani, sur le storytelling, même si aujourd'hui Christian Salmon, qui est un peu l'inventeur, en tout cas l'importateur en France de cette notion, nous dit on n'est plus dans l'ère du storytelling, on est dans l'ère du clash. Peut-être que vous aurez un mot là-dessus tout à l'heure, Vincent Martini, mais peut-être pour faire le lien aussi avec la première partie qui était consacrée à Game of Thrones et sur cette question de l'émotion, de l'incarnation et donc de la représentation que les leaders ont d'eux-mêmes, il faut parler du lien que vous faites avec les séries, notamment les séries politiques comme House of Cards.
Oh, don't deny it, you've loved it. You don't actually need me to stand for anything, you just need me to stand. To be the strong man. the man of action. My God, you're addicted to action and slogans. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do. Just as long as I'm doing something, you're happy to be along for the ride.
Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. Au fond, vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit. Vous voulez juste que je me lève, que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon Dieu, vous êtes tellement accro à l'action et au slogan. Et peu importe ce que j'ai à dire, et peu importe ce que j'entreprends, du moment que quelque chose est entrepris, vous êtes bien content d'être de la fête. Et franchement, je peux vous comprendre. Avec l'irresponsabilité et l'indécision de vos vies, pourquoi pas un homme comme moi ? Je n'ai pas à m'excuser. Parce qu'en définitive, que vous m'aimiez ou pas, je m'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est que je gagne. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte.
La vision un brin pessimiste de la démocratie par Frank Underwood, le héros de Game of Thrones. Mais il y a dans cette tirade, hein, qui est une adresse directe au spectateur, il y a dans cette tirade un peu de vérité et un peu de votre livre, Vincent Martinez.
Oui, alors moi je me suis beaucoup intéressé justement à la façon dont fiction et réalité se mêlent. Il me semble que vous parliez tout à l'heure de Christian Salmon, excellent livre storytelling, où il racontait comment l'actualité était découpée en était feuilletonnée et donc les acteurs politiques s'en servaient. Il me semble qu'on est arrivé à un stade supérieur de ce spectacle, de cette société du spectacle dont parlait Guy Debord. Et ce stade supérieur, c'est le mélange entre justement ces séries et la réalité politique. Vous nous avez fait écouter un épisode de House of Cards, un passage de House of Cards. Moi, je parle carrément de House of Cardisation de la vie politique, c'est-à-dire une manière dont cette série, qui pourtant a été conçue par ces scénaristes comme très éloignée de la réalité. Frank Underwood, ce n'est pas un modèle inspiré du réel pour les scénaristes. C'est quelqu'un qui a un mélange de mafioso et de tueurs, et de voleurs, et de vampires assoiffés de sang, etc. Donc, il n'y avait pas d'idée d'une réalité qui colle, d'une fiction qui colle à la réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pourtant que, paradoxalement, cette série est aujourd'hui une des séries préférées de la part des leaders politiques en France comme aux États-Unis, que Barack Obama a fait même une petite vidéo à la manière de Frank Underwood, alors évidemment de manière humoristique, mais on voit bien ici que Poutine a déclaré d'ailleurs sa flamme pour le personnage de Frank Underwood.
Mais pas pour le président russe qui dans la série.
Vraiment pour le président russe, plutôt parce que je crois qu'il se voit comme le Underwood. C'est devenu carrément un modèle pour les acteurs politiques. Et là, il me semble que ça devient un peu compliqué. Mais ça dit quand même quelque chose d'important sur la confusion entre fiction et réalité, que j'appelle moi le syndrome de l'arc narratif. C'est-à-dire, dans les séries, vous avez une narration principale qu'on appelle la storyline, et dans laquelle l'idée, c'est par exemple, dans le cas de House of Cards, vous avez un acteur politique, Frank Underwood, qui aurait voulu devenir secrétaire d'État, et comme il ne le devient pas, décide de se venger du président américain en prenant sa place. Bon, voilà l'intrigue principale. Il faudra 5 saisons pour que ces choses-là arrivent, et entre-temps, on va créer des sous-histoires pour retenir l'attention du spectateur et lui permettre de continuer à suivre la série. Et on a le sentiment que cet arc narratif aujourd'hui s'applique à la politique. C'est-à-dire que la question de délivrer des résultats pour un acteur politique, et qui est la storyline, on va dire, de l'action politique, est toujours retardée par des sous-intrigues qui empêchent finalement le citoyen téléspectateur électeur d'obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire de le tenir en haleine. On l'a vu récemment, par exemple, à la conférence de presse du président de la République, où il a dit j'ai compris ce que vous disiez, je vais mettre en place un certain nombre de réformes qui vont donner des résultats, mais pas tout de suite, dans un an, dans 2 ans, peut-être même pour le plein emploi en 2025. On va dépasser son mandat. Évidemment, quelle est la solution pour pouvoir finalement obtenir le résultat de cette intrigue ? Eh bien, il faut continuer à soutenir l'acteur politique, en l'occurrence à le réélire. Et on voit bien cette confusion qu'il y a ici, qui n'est pas seulement de l'ordre du feuilletonnage, mais vraiment de la mise en place d'un arc narratif dans la vie politique.
France Culture. La grande table, Raphaël Bourgois.
ne dois pas être un très bon chef, Vincent Martini, ou peut-être un peu trop démocrate, car je n'ai pas réussi à m'opposer à la diffusion de cette chanson. Il y a tout le monde qui danse de l'équipe de la Grande Table sur ce titre de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, référence évidemment à ce héros, cette incarnation dont vous avez fait l'objet de votre dernier livre, Le Retour du Prince, publié chez Flammarion. Vincent Martini, à mes côtés pour vous interviewer, Emmanuel Andréani du magazine Society, notre partenaire. Vous parliez juste avant la pause, j'allais dire juste avant cette pause musicale, de cette question d'incarnation et finalement de ce qu'on pourrait appeler une forme de kitsch du pouvoir. En tout cas, c'est l'expression que vous employez dans ce livre. Comme une façon pour remplir le vide, ce manque, de faire référence au passé, un passé fantasmé, en règle générale, de s'y référer en permanence, de le faire revivre en permanence, même si ça ne représente rien véritablement de la réalité, en tout cas la réalité historique. On a un exemple, par exemple, récemment avec Notre-Dame de Paris.
Mmh. Bah oui, c'est encore une fois l'influence de Milan Kundera, de l'insoutenable légèreté de l'être, cette notion de kitsch, que je redéfinis un peu comme un retour dégradé de l'ancien. Alors je m'explique, prenez par exemple le premier soir de la victoire de Emmanuel Macron, on se souvient tous d'Emmanuel Macron marchant de manière sentencieuse vers la pyramide du Louvre, avant de prendre la parole devant ses supporters pour justement prendre le pouvoir d'une certaine manière. On se rappelle les notes de la 9e de Beethoven et on se rappelle aussi que ça ressemble étrangement à un épisode du passé, cette cérémonie du 21 mai 1981 quand François Mitterrand, porté par la foule, était monté au Panthéon pour déposer trois roses sur les tombes de Jean Jaurès, Jean Moulin et Victor Schœlcher. Et donc on voit bien qu'il y a dans ce kitsch de pouvoir, cette volonté de rejouer des scènes, un peu comme, vous savez, Tarantino dans son cinéma, il veut rejouer des grandes scènes du cinéma mondial mais refait à sa sauce. Alors là c'est la même chose, un peu le talent en moins, et on a le sentiment que finalement on rejoue les mêmes choses, mais c'est pas exactement la même chose parce qu'on oublie de dire que François Mitterrand lui était porté par une foule enthousiaste de jeunes gens, de militants qui étaient derrière lui et qui le poussaient au Panthéon. C'était une marche collective, une montée collective, alors que Emmanuel Macron, le soir du 7 mai, est seul. Il est seul et la seule personne qui va faire monter sur scène, c'est sa femme, Brigitte. Et donc on voit bien déjà que c'est le triomphe d'un homme privé et non pas un triomphe collectif qui se joue ici. Kitsch du pouvoir qu'on retrouve aussi, me semble-t-il, dans la façon dont Donald Trump va réutiliser le slogan « Make America Great Again », qui était le slogan de Ronald Reagan dans les années 80, mais aussi dans la façon dont Orban, à sa manière, va rejouer les scènes du nationalisme hongrois et de la disparition potentielle de la nation hongroise dans son nationalisme frénétique, inspiré donc des punitions de la Hongrie après la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc on voit bien que, comme on ne sait pas parler du présent et encore moins parler d'avenir, eh bien on se réfère au passé comme comme un espace confortable dans lequel les électeurs vont pouvoir s'incarner et vont pouvoir manifester un pacte de fiction, une confiance basée sur une fiction avec le prince.
Tout ça se déroule, Vincent Martini, dans un contexte malgré tout assez nouveau, qui est celui des nouveaux médias, et qui oriente vers une forme de transparence, d'authenticité. Michel Rocard avait théorisé le parler vrai, c'est devenu presque une injonction. On se souvient de l'épisode de Laurent Wauquiez s'adressant à des étudiants en leur disant « Avec vous, je vais pas faire le bullshit que je fais devant les médias ». Ça avait fait un tollé parce que justement, il avouait ce qui n'était qu'un secret de Polichinelle, c'est-à-dire que les hommes politiques, quand ils s'adressent à leurs électeurs, ils sont en représentation malgré tout.
Oui, alors Michel Rocard avait regretté, hein, y compris à cette antenne d'ailleurs, d'avoir utilisé le terme de parler vrai. Il avait dit à l'époque que si vous parliez vrai même dans un couple, par exemple, ça tiendrait pas très longtemps. Donc moi j'aime bien cette formule de Bruno Latour, qui dit que la langue politique est une langue courbe. Une langue courbe, c'est-à-dire une langue qui n'est pas censée parler de vérité. Il y a une différence entre finalement le domaine de la politique, qui est forcément une mise en scène, et c'est pas grave. Il faut pas s'en lamenter, parce que les citoyens, me semble-t-il, ne sont pas dupes de certaines mises en scène. Et d'une certaine manière, comme dans le paradoxe du comédien dont parle Diderot, le comédien, lui, peut retenir ses véritables émotions. C'est justement parce qu'il les met à distance, qu'il est en mesure de pouvoir être un bon comédien. Je crois que c'est la même chose pour les acteurs politiques. Donc c'est pas la mise en scène qui pose une difficulté. Et je crois que la recherche frénétique de la vérité en politique est une fausse recherche. En revanche, je dirais une chose sur l'apologie et le triomphe des mensonges. On vit dans une période dans laquelle triomphe un certain nombre de ce que j'appelle les mensonges fondamentaux. Des mensonges fondamentaux qui sont répétés par la classe politique comme autant de vérités, encore une fois souvent par manque d'imagination, parfois de manière inconsciente. J'en cite deux ou trois. Le premier, c'est si vous obtenez un diplôme élevé, vous aurez un travail à la hauteur de vos espérances. Bon. On sait, à l'évidence, que la dégradation du niveau des diplômes, et surtout sur le marché du travail, et le chômage qui existe dans de nombreuses sociétés d'Europe occidentale, fait que c'est pas forcément le cas. Deuxième mensonge, si vous travaillez dur, eh bien, vous pourrez avoir une vie décente. Or, on voit avec les gilets jaunes qu'il y a des gens qui travaillent dur et qui n'ont pas de vie décente, et que c'est pour ça qu'ils descendent dans la rue pour s'en plaindre, et notamment se plaindre de la progression du capital qui, lui, va beaucoup plus vite que le travail. Et puis enfin, paraît-il, le plus grand des mensonges, encore une fois un mensonge qu'on répète de manière un peu inconsciente et par manque d'imagination plutôt que par volonté de nuire, c'est l'idée qu'il suffirait d'accroître les biens dans une société pour pouvoir permettre d'accomplir un bien commun. Et on voit bien que la catastrophe écologique qui nous guette s'oppose à cette lecture de la réalité.
Emmanuel Andréani.
Vous pensez que c'est justement la persistance de ces vérités mensongères, comme vous dites, le fait que les médias, les politiques reprennent ce genre de discours en permanence, qui rend les gens peut-être plus perméables à tout un tas de théories du complot, de fausses informations, de distorsions de la réalité en permanence?
Ben, j'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire que je pense que puisque les gens ont le sentiment confus qu'on leur ment, ou qu'on leur raconte, on leur donne une lecture de ce que la réalité peut leur apporter qui ne correspond pas à ce qu'ils vivent, alors ils sont tentés d'aller chercher partout le mensonge. Et c'est là où on rentre dans une société de confusion entre le réel et le faux. C'est là où on est dans la recherche des fake news. Il me semble que si on commençait par refuser justement de répéter en permanence ces mensonges fondamentaux, si on s'attaquait à ces véritables problèmes que je viens de poser, eh bien je pense que la question des fake news passerait au second plan.
Mais alors que faire, Vincent Martini? Vous n'êtes pas tendre avec les citoyens dans votre livre, dans la dernière partie qui est plutôt une partie de proposition pour proposer une autre forme d'incarnation, et vous dites c'est aux citoyens de s'emparer de cette question, c'est à eux finalement d'arrêter de se cacher un petit peu derrière une sorte de rapport victimaire à l'action publique et de prendre les choses en main.
Bah oui, je dis qu'il y a une triple responsabilité dans cette situation. La première, c'est celle des princes eux-mêmes, hein, qui ont usurpé le pouvoir, qui l'ont confisqué souvent, si ce n'est usurpé. La deuxième, c'est celle des médias, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il me semble que nous, les citoyens, avons une très large responsabilité. Pourquoi ? Parce que c'est très facile de se déresponsabiliser au profit des princes. C'est très facile, il y a une gratification psychologique de se dire que la politique, c'est pas nous, mais c'est eux, cette petite caste de gens, cette oligarchie, dont parle Jacques Rancière, par exemple, qui prendrait ces décisions, qui seraient hostiles au peuple. Et nous, peuple sujet, nous, peuple presque objet de leur pouvoir, eh bien, nous n'aurions rien à faire. Il me semble que dans une démocratie, parce que je pense que là, il y a une vraie différence entre le régime démocratique et les régimes autoritaires, eh bien, nous avons un pouvoir potentiel. Et nous avons notamment le pouvoir de rêver ou d'inventer une nouvelle forme d'incarnation démocratique et de faire émerger des leaders qui ne soient pas, on va dire, des leaders qui confisquent le pouvoir, mais qui augmentent la capacité d'agir des citoyens. Et donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire.
Mais ça suppose de croire encore à la représentation, Vincent Martini.
Alors, je crois que on est dans une période dans laquelle la démocratie représentative telle qu'on l'a connue jusqu'à présent est un peu en train d'avoir du plomb dans l'aile. Mais pour autant, je crois pas qu'on va passer de la démocratie représentative à la démocratie directement. Enfin, entre guillemets, je pense plutôt à un mix. C'est un peu ce que dit Pierre Rosanvallon dans Le Bon Gouvernement. Il dit voilà, probablement, il faudra mélanger, hein, la démocratie représentative avec des formes d'initiative citoyenne. Alors, le pouvoir politique commence à le comprendre, hein. On l'a vu encore une fois, Emmanuel Macron, tout d'un coup, découvre que la solitude, ça pèse. Et donc, on appelle à la responsabilité de chacun. Sauf que ça se construit aussi dans les institutions. Et en France, le verrou institutionnel, c'est un verrou absolument fondamental à mon sens.
Une autre incarnation est donc possible en politique? Il ne devrait y avoir ni des masques, ni des spectateurs, mais que des participants?
Oui, non, il peut y avoir des masques et des spectateurs. La politique, c'est un jeu de masques, encore une fois, c'est une mise en scène. Moi, je vois pas rien de mal là-dedans. Il y a même un côté excitant, hein, dans l'introduction du livre. Je dis, la politique, c'est la plus grande des séries, finalement. Et à ce titre-là, c'est fascinant. Mais il me semble que la question, c'est dans quelle position sommes-nous, dans quelle posture sommes-nous, nous, les citoyens, vis-à-vis de la politique? Est-ce que nous sommes, encore une fois, des gens qui souhaitons participer au spectacle, ou au contraire, des gens qui sommes prêts, justement, à se satisfaire d'être de simples spectateurs? Et je crois que ce monde-là est révolu.
Merci beaucoup Vincent Martini. Le Retour du Prince, c'est donc publié chez Flammarion. Je signale Emmanuel Andréani, le dernier numéro de Society, le quinzomadaire libre et indépendant, Perdre la Terre, qui est le livre événement. Enfin, c'est un numéro qui nous parle de réchauffement climatique et qui est donc en kiosque. Merci d'être venu à nos côtés dans le cadre de ce partenariat avec La Grande Table. Merci aussi à toute l'équipe. La Grande Table Idée, c'est Camille Fouchard et Laura Dutèche-Pérez. La Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et Mathilde Thon-Fourcade. À la réalisation aujourd'hui, Mélena Hellig, et à la technique, Julien Calvas.